frangin. Voilà, content de vous voir. Super, ben comme Rebecca dit, c'est le premier culte de l'année où on est là. Voilà, j'étais déjà là dès mardi. Voilà, une nouvelle année qui a déjà bien commencé. Finalement, changement d'année avec les vœux et autres, mais souvent je me dis, mais ça change quoi? On s'endort, nous souvent finalement, on s'endort avant minuit et on se réveille le lendemain. Ça, le calendrier a changé finalement, rien ne change, on ouvre une autre page, beaucoup font des projets, il y a eu des feux d'artifice chez nous voilà, où on habite jusqu'à 4 heures du matin. Alors des fois, voilà, c'était un petit peu la folie. Beaucoup font des projets, prennent des résolutions, se souhaitent une magnifique année, on espère un changement. Voilà, une bonne année, et puis là, on se réveille, on voit quelques news qui arrivent, et on voit drame à Crans-Montana. Voilà, vous avez tous entendu, je pense, à moins d'être sur la Lune. Ailleurs que sur cette planète Terre, je pense que tout le monde en a entendu parler. Voilà, des vies qui ont été fauchées tout en faisant la fête, finalement, en se réjouissant. Des familles plongées dans le deuil, une région entière secouée, même la Suisse, hein, le canton de Vaud, Genève, la France, l'Italie, enfin, et bien d'autres pays aussi. Et ce drame nous rappelle d'une manière assez brutale, eh bien, que la vie, elle est fragile. La vie, elle est fragile, et rien n'est garanti, à part Jésus, finalement. Rien n'est garanti, nos lendemains ne nous appartiennent pas. On n'a pas. Voilà, on peut avoir toutes les assurances qu'on veut, on peut avoir les meilleurs médecins que comporte cette planète. Mais une question essentielle demeure, finalement, en tant que croyant, parce que je m'adresse à une église, donc forcément à des croyants. Qu'est-ce qui va nous mettre en route dans cette année 2026 ? Quelle sera notre force ? Quel sera notre carburant ? Paul va dire dans 1 Corinthiens 16, au verset 13 et 14, il va dire « Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts. » Et le verset 14, « Que l'amour inspire toutes vos actions. » J'aime tellement ce genre de verset, c'est tellement court. Puis tu te dis « Waouh, t'as appris deux versets là, comme ça. » Incroyable, c'est pour ceux qui n'ont voilà, pas une grosse mémoire comme ça, que soyez vigilants, c'est comme des slogans finalement qui sont là, demeurez ferme dans la foi. Et ça c'est peut-être une bonne résolution d'être vigilant. Si Paul dit d'être vigilant, ça veut dire que on doit pas forcément se méfier, mais être sensible peut-être au temps dans lequel on vit. Rester ferme dans la foi parce que notre foi peut vaciller, hein. Soyons pas comme Pierre qui dit ouais, « Tous ceux-là, ils vont te renier, mais pas moi, Seigneur. » Il parlait des disciples, puis c'est rajouté ben, « Tous les disciples l'ont dit d'eux-mêmes. » Non, nous aussi, on doit être vigilants, faire preuve de courage, ben, ce n'est pas toujours facile. Quand tout va bien, c'est facile. Hein. Quand on est en bonne santé, quand peut-être au niveau du travail, ça se passe bien, quand dans la famille, ça se passe bien, c'est facile. Soyez forts, là encore, ben, par nous-mêmes, on peut faire certains efforts, mais là encore, restez vigilants. Et après ce verset 14, que l'amour inspire toutes vos actions. Finalement, c'est la petite touche de sel ou la rosace de crème sur le gâteau, ou vous pouvez mettre comme vous voulez, mais c'est ce qui va couvrir le tout. On peut avoir tout ce qu'on a, mais s'il nous manque l'essentiel, l'amour, on n'est rien. Alors comment être vigilant, ferme dans la foi, faire preuve de courage, être fort ? En 2025, je vous ai encouragé à lire le Nouveau Testament avec des petits résumés, des choses comme ça qui étaient là. Alors certains, j'imagine, ont suivi, pour d'autres, ils ont essayé, puis après, c'était peut-être un petit peu plus difficile, se sont arrêtés. Enfin, chaque jour, il y avait la possibilité de pomper enfin, un petit résumé sur un Google Docs. Donc ça, c'était en 2025 pour s'encourager à la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul va dire dans Romains 10, 17, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Vous savez, on peut entendre plein de bons messages, des orateurs qui ont vraiment le punch, le feu, et puis qui vont crier, qui vont vraiment mettre beaucoup de, même théâtralement. Mais ce qui suscite la foi, c'est pas le nombre de décibels, c'est vraiment la parole de Dieu. C'est vraiment la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors en 2026, 2027, 2028, alors qu'on a peut-être lu le Nouveau Testament, ou en tout cas un peu plus lu le Nouveau Testament, j'aimerais nous encourager à lire l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est 23 145 versets. Dit comme ça fait assez peur, hein ? Le Nouveau Testament, que vous avez peut-être lu l'année passée ou à d'autres moments, c'est 7957 versets. Donc voilà, en 3 ans, on va s'encourager mutuellement à lire l'Ancien Testament aussi pour fortifier notre foi. Amen. Je me rends compte que c'est important de manger si on veut être en bonne santé. Personne ne se priverait trop longtemps, à part si on prend un jeûne et prière pour un temps. Mais on aime tous manger, et la parole de Dieu, qu'elle soit aussi comme du miel sur nos lèvres. Gloire à Dieu. Et il ne faut pas se décourager, peut-être vous avez commencé, puis vous dites « Ah, mais je n'ai pas réussi à poursuivre ». Dans Zacharie 4, 10, il est écrit qu'il ne faut pas mépriser les petits commencements. Je crois que peut-être qu'on s'arrête un temps, puis on peut recommencer, mais voilà, c'est déjà un effort que vous faites. Et petit à petit, on dit des fois l'appétit vient en mangeant. Si l'on en revient à notre texte d'1 Corinthiens 16, on voit qu'à la fin de la première lettre, l'apôtre Paul adresse une série de recommandations courtes, fortes, presque comme un testament spirituel. Elle s'adresse à une église confrontée à des divisions, des tensions, des défis spirituels et moraux. On pourrait se dire, les églises qu'on nous montre dans la Bible, elles sont au top, hein, il n'y a jamais de problème, lisez les Corinthiens. Et dans ce contexte, Paul ne donne pas d'abord une stratégie. Aujourd'hui, on est dans un monde de stratégie, hein, on peut faire des cours pour tout. On a des professionnels de la théorie un peu partout, et on peut se former, et puis finalement oublier que le but, c'est quand même de servir. C'est quand même de servir. Au centre de tout, il place une phrase très simple, mais décisive. Que l'amour inspire toutes vos actions. On va lire quelques versets avant et après ce texte, donc d'1 Corinthiens 16, 13 à 14, juste histoire de le placer dans son contexte. Vous verrez, c'est les salutations, c'est la fin de cette lettre d'1 Corinthiens. 1 Corinthiens 16, « Je compte venir chez vous après avoir traversé la Macédoine, car je vais passer par cette province. Peut-être séjournerai-je quelque temps chez vous, ou même y passerai-je l'hiver. Ce sera pour vous l'occasion de m'aider à continuer mon voyage vers ma destination. » En effet, je ne veux pas me contenter de vous voir en passant. Je compte demeurer quelque temps avec vous si le Seigneur le permet. Pour le moment, je vais rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car j'y ai trouvé une grande possibilité d'action en même temps que beaucoup d'adversaires. Pas mal, hein ? Il y a beaucoup de possibilités de servir Dieu, mais ce n'est pas tout rose. Des fois, quand on lit ça, on oublie que si nous, on galère des fois, y en a d'autres qui ont galéré avant nous. Verset 10, 1 Corinthiens 16 dit, « Si Timothée arrive, veillez à ce qu'il se sente à l'aise parmi vous, car il travaille à l'œuvre du Seigneur, tout comme moi. Que personne ne le méprise donc. À son départ, fournissez-lui les moyens de revenir dans la paix auprès de moi, car je l'attends, lui et les frères qui l'accompagnent. » Quant à notre frère Apollos, je l'ai encouragé à plusieurs reprises à se joindre aux frères qui retournent chez vous. mais il n'a pas du tout l'intention d'entreprendre ce voyage maintenant. Il ira certainement dès qu'il en trouvera l'occasion. Et c'est là qu'on arrive sur nos versets 13 et 14 d'1 Corinthiens 16. Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts, que l'amour inspire toutes vos actions. Encore une recommandation, frères et sœurs, vous connaissez Stéphanas et sa famille. Vous vous souvenez qu'ils ont été les premiers à se convertir au Seigneur dans toute l'Achaïe. Vous savez qu'ils se sont spontanément mis au service des membres du peuple saint. Soumettez-vous, vous aussi, à de telles personnes et à ceux qui partagent leur travail et leurs efforts. À Corinthe, Paul y a prêché pendant 18 mois, vers les années 50 à 51 après Jésus-Christ. Alors dans la Bible, c'est souvent un résumé, mais il y a passé 18 mois, donc ça prend quand même un peu de temps. Il a noué des amitiés, il a constitué, créé cette église, établi des personnes. Il fonde une église dynamique, mais divisée, comme je vous l'ai dit. Une église naissante. Et après avoir quitté Corinthe, Paul reste en contact par lettre et par message. Il y avait une première lettre, et ça, si vous avez lu les Corinthiens déjà, d'1 Corinthiens 5, verset 9, il écrit « Dans ma première lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec les personnes vivant dans l'immoralité sexuelle. » Donc, de se séparer des gens qui vivent dans le péché, finalement. Donc, s'il parle de sa première lettre, ça veut dire qu'il y en avait une avant 1 Corinthiens. Donc, il y a 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, donc c'était peut-être moins 1 Corinthiens, mais on ne l'a pas. Elle ne nous est pas parvenue, on ne l'a pas dans la Bible, elle n'a pas été retrouvée. Puis, la première épître aux Corinthiens, écrite vers l'an 54 après Jésus-Christ, depuis Éphèse, ça je vous l'ai lu dans ce que je viens de lire, dans 1 Corinthiens 16, 8, il dit « Pour le moment, je vais rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car j'y ai trouvé de grandes possibilités d'action en même temps que beaucoup d'adversaires. » Donc, si on prend garde un petit peu à ce que Paul dit, ben on arrive déjà à situer certaines choses. Donc dans cette lettre, Paul rappelle l'essentiel de l'Évangile. Jésus-Christ crucifié et ressuscité, on n'a pas besoin de savoir beaucoup plus. Seul fondement de la foi et source de l'unité du peuple de Dieu. Il appelle aussi les croyants à grandir dans la sainteté, dans l'amour fraternel et à vivre selon l'Esprit, non selon le monde. Et encore, à travers cette lettre, Paul nous montre comment l'Évangile transforme la vie personnelle de chaque être humain, communautairement, socialement, des croyants. Son message centré sur Jésus-Christ crucifié rencontre un certain succès, mais quand même aussi beaucoup de tensions internes. Si vous vous souvenez de ces textes d'1 Corinthiens, il y a des divisions autour des divers leaders, Paul, Apollos, Pierre, enfin ils disent « Ah non, moi je suis plus de... Je préfère... » Il y avait des sensibilités, comme aujourd'hui on pourrait dire « Ah mais tel pasteur, telle personne, tel ancien, il était mieux. » On n'a rien inventé. C'était déjà du temps de Paul. Et certains se réclamaient de Paul, d'autres d'Apollos, d'autres de Pierre, parce que forcément... Il y avait des atomes crochus, comme on dit, et Paul va lutter là contre, parce qu'il dit finalement ce qui importe, c'est le message de l'Évangile, et ce n'est pas le serviteur. Voilà. Il y avait des fortes inégalités sociales. Lorsqu'il parle de la Sainte-Seine dans 1 Corinthiens 11, il y avait des problèmes moraux, comme je l'ai dit, des querelles judiciaires aussi, des chrétiens qui s'envoyaient mutuellement au tribunal. Et là, Paul va dire que ça ne se fait pas entre croyants, qu'on ne va pas faire ce genre de choses. Il y avait des désaccords sur les relations sexuelles, il y avait la nourriture aussi sacrificielle, on sort aussi de toute cette période aussi des sacrifices de l'Ancien Testament. Il y avait des mariages bizarres aussi, enfin des trucs qui ne devaient pas se passer, des croyances particulières au sujet de la résurrection. Ils se disputaient au sujet de la Sainte-Seine, où ils prenaient la Sainte-Seine, mais en même temps, certains avaient faim chez eux, certains gloutonnaient, certains vivaient dans l'immoralité. Et même, ils se disputaient sur l'autorité de Paul, parce que forcément, quand ils voulaient remettre de l'ordre, il n'était pas toujours le bienvenu. Parce que si on aime mieux quand on nous caresse dans le sens du poil, Voilà, et qu'on nous dit que tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc Paul, quand il essayait de remettre un peu d'ordre, ben même qu'il était Paul, il n'était pas toujours accepté. Alors, ce matin, j'aimerais parler quelques éléments sur trois points. Une église appelée à la vigilance et à la fermeté, donc c'est basé sur 1 Corinthiens 16, 13 et 14. À la fermeté dans un monde instable, l'amour, qui est cette motivation absolue de nos actions, c'est le verset 14 de 1 Corinthiens 16, et un amour qui se traduit concrètement aussi par le service avec l'exemple de Stéphanas. Donc déjà une église appelée à la vigilance, à la fermeté dans ce monde dans lequel on vit. Paul commence par 4 impératifs. C'est cool, après la prédication, vous le saurez par cœur. Soyez vigilants. Demeurez ferme dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts. 1 Corinthiens 16, 13. Et ces paroles montrent le contexte spirituel tendu de l'église de Corinthe. C'est la logique, si on te dit d'être vigilant, c'est qu'il y a besoin d'être vigilant, c'est que c'est un peu craignos, enfin c'est compliqué, j'imagine. Donc il y avait des influences dangereuses, des compromis, des luttes internes. Paul sait que la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas une promenade tranquille. Et le drame qu'on a vécu le premier de l'an à Crans-Montana nous rappelle aussi cette réalité qu'on vit dans un monde fragile, imprévisible, parfois brutal. Vous savez, beaucoup se sont réveillés brutalement avec ça, mais en se disant « Non, mais ça peut se passer peut-être en France, mais pas en Suisse. Enfin, ça peut se passer ailleurs. » Ça peut se passer en Grèce, mais pas en Suisse. Ça peut se passer au Brésil, mais pas en Suisse. Bah oui, ça peut se passer aussi en Suisse. Être vigilant, c'est pas vivre dans la peur, mais c'est reconnaître aussi que chaque jour est un don et qu'on fait pas n'importe quoi de notre vie et aussi eh bien, qu'il y a des influences extérieures. On est dans un monde sans Dieu. Et il faut être vigilant. Demeurer ferme dans la foi, ce n'est pas nier la douleur, mais c'est s'accrocher à Dieu quand tout vacille. Ferme dans la foi, c'est parce que des fois, c'est vrai que ce n'est pas évident. Aujourd'hui, notre sœur Mamie, Bibiche aussi, sont partis aussi à Kinshasa. Ils sont bien arrivés aussi. Visite le papa aussi à Mamie Bibiche aussi qui est à l'hôpital, en plus du deuil. Donc, et c'est dans ces moments-là qu'il faut être ferme dans la foi aussi, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi, Seigneur, tu as permis qu'une femme enceinte à 8 mois vive ces choses-là ? Demeurez ferme dans la foi. Être ferme dans la foi, c'est facile, comme j'ai dit tout à l'heure, quand tout va bien. Mais quand il y a ces gros points d'interrogation, on peut se dire, mais pourquoi, Seigneur ? Et nous, on l'a vécu aussi à de multiples reprises. Faire preuve de courage, c'est continuer à espérer quand le choc est encore là. Être fort, c'est pas être insensible, mais c'est tenir debout même avec les larmes. C'est pas être insensible à la douleur de l'autre, puis à dire « ouais, mais avec le Seigneur, ça va toujours », non. Parfois, c'est pleurer avec ceux qui pleurent, nous dit aussi la Bible. Se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et parfois juste pleurer, sans forcément parler. On est dans un monde incertain, parfois hostile à la fois, rempli de voix contradictoires. Et depuis que je suis né, j'ai jamais vu autant de tensions internationales. Je suis en train de me dire, mais Seigneur, est-ce que tu es en train de nous pousser en dehors de notre tranquillité Moi, je suis né bien après... bien après la Deuxième Guerre mondiale, même si j'ai mon grand-père qui a connu la Deuxième Guerre mondiale, mon père aussi qui est né dans cette période-là, ma mère aussi d'ailleurs, mais moi j'ai jamais vécu, on est en Suisse, tout va bien. Mais quand on regarde, on voit des tensions même pays d'Europe ou territoire d'Europe, le Groenland, on se dit ça va finir comment ce truc, ou l'Ukraine. Voilà, tiens, j'ai envie de ton pays, je vais le prendre. Imaginez la France qui dit j'ai envie de la Suisse, je vais le... Je sais pas. Bon, tant que ça concerne des morceaux de glace au Groenland, mais c'est tellement énorme. Et après, bah, une fois que tel pays auront pris ça, il y a les Chinois qui vont dire « Ah, Taïwan, je vais le prendre. » Bah, forcément, si les autres se servent sur le marché public. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est bien, que c'est mal, je ne fais pas de la politique. Je suis juste en train de dire qu'il y a, on vit dans un climat agressif. Voilà. Agressif. Et il y a ce risque aussi que ça vienne aussi dans l'Église, parce que l'agressivité, ben on est dans le monde, mais on n'est pas du monde, donc faire attention là aussi. Et puis en même temps, pas paniquer. Si Paul nous dit d'être vigilant, d'être ferme dans la foi, de faire preuve de courage, d'être fort, ben c'est justement parce que dans des moments comme ça, si les chrétiens ils commencent à paniquer, et puis à dire « ouille, ouille, ouille », mais on sait où on va, en tout cas j'espère. Et sans ça, je suis prêt à prier avec vous à la fin. Mais il parle de fermeté, d'être enraciné dans la foi, d'un courage qui vient de Dieu. Et la vigilance sans amour vient de la dureté. La fermeté sans amour vient de la rigidité. On a besoin de ça. Et c'est pourquoi le verset 14 d'un Corinthiens 16 vient immédiatement poser le cadre de ce qui précède. C'est un peu la même structure qu'en Corinthiens 12, 13 et 14 d'ailleurs. Dans Corinthiens 12, Paul présente la diversité des dons spirituels et aussi leur complémentarité dans le corps. Au chapitre 13, il place l'amour comme fondement indispensable qui donne un sens et la valeur à tous les dons, sans lesquels eh bien, ils ne servent à rien. Et au chapitre 14, en Corinthiens 14, il montre comment exercer les dons, surtout les prophéties, les langues, de manière ordonnée, édifiante, toujours guidée, là encore par l'amour. Dans Corinthiens 13, il dit, tu peux avoir tous les dons, mais s'il te manque un seul, finalement, tu es comme une cymbale qui résonne. Ça sonne cru. Qu'écoutez le verset 2 du chapitre 13 d'un Corinthiens, donc un Corinthiens 13. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je serais rien. Waouh ! La foi. Alors s'il vous plaît, moi qui aime faire du ski, qui aime les montagnes, ne priez pas pour que les montagnes partent de la Suisse. Parce que si vous avez la foi qui déplace les montagnes, et qu'elle jette dans la mer, là, on ne va pas être amis. Enfin, sans l'amour, je ne suis rien. Des fois, je me dis, mais ça, il veut dire quoi ? Moi, je n'ai pas besoin de déplacer les montagnes, mais c'est vrai que si on prie pour que les malades soient guéris et qu'ils sont guéris, on le vit, mais à mon sens, pas assez souvent. On a envie de plus. Plus, plus, plus. Par contre, je ne vais pas prier pour que les montagnes se déplacent, mais c'est une illustration, vous l'aurez compris. Deuxième point, l'amour et la motivation absolue de toutes nos actions, eh bien, c'est que l'amour inspire toutes vos actions. Ce verset, c'est le cœur battant du message. Paul ne dit pas « faites quelques actions d'amour hein, de temps en temps, un petit don pour la mission ou un petit don pour un... » Non, mais c'est que l'amour inspire toutes vos actions. Ça change, hein ? Ça change. Face à un drame comme on l'a vécu à Montana, on réalise que les explications sont limitées, les mots sont parfois bien insuffisants et les discours peuvent même blesser. Quand on dit des bêtises, hein, mais des fois il vaut mieux juste être présent, se taire. Mais être présent. Et il reste une chose qui ne trompe pas et ne déçoit pas, c'est l'amour vécu, quelque chose de concret. Et dans le contexte des Corinthiens, une église riche en dons, mais pauvre en relations, Paul rappelle cette vérité essentielle, sans l'amour, même les meilleures œuvres perdent leur valeur. Et l'amour ici, ce n'est pas une émotion passagère. Aujourd'hui je t'aime, demain je te déteste. Mais c'est l'amour qui cherche le bien de l'autre. Ce n'est pas pour satisfaire quelque chose chez moi, mais c'est l'amour qui cherche le bien de l'autre. C'est l'amour qui supporte aussi la douleur. qui pardonne même les injustices, qui sert sans calcul, en se disant « Ah, si je fais ça, peut-être qu'on va me... Je vais grimper un peu dans la hiérarchie. » Non. L'amour efface pas la souffrance, mais il empêche la souffrance d'être solitaire et juste d'être présent. En 2026, tout comme chaque jour de notre petite vie, la question n'est pas seulement « Que ferons-nous » mais surtout avec quel esprit on va le faire. Servir, oui, mais avec amour. Témoigner, oui, mais avec amour. Être ferme dans la vérité, là aussi, c'est important d'être dans la vérité. Oui, mais avec amour. Et l'amour nous pousse à lâcher aussi l'amertume. L'amour nous pousse aussi vers un processus de pardon, tout comme Jésus. L'amour ne supprime pas la vérité, mais il la rend audible. L'amour ne remplace pas la foi, mais il la rend visible. Et on a besoin de ça. On a besoin de beaucoup d'amour, déjà de recevoir cet amour de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On a besoin de recevoir cet amour, d'être conscient de cet amour, pour pouvoir nous aussi aimer. Même ceux qui ne sont pas aimables, finalement. Là encore, c'est facile d'aimer les gens aimables, ceux qui nous disent du bien, ceux qui flattent notre ego. Et troisième et dernier point, un amour qui se traduit concrètement aussi par le service, c'est le verset 15 d'un Corinthiens 16. Paul termine en citant un exemple précis, celui de Stéphanas et de toute sa famille aussi. Là, il est quelqu'un qui passe comme inaperçu, toutes ces personnes qui sont dans les salutations de l'apôtre Paul. Et quand même quelqu'un voilà, qui ne s'est pas contenté d'être là, mais qui a fait quelque chose certainement de puissant, où il dit « Encore une recommandation, frères et sœurs, vous connaissez Stéphanas et sa famille, vous vous souvenez qu'ils ont été les premiers à se convertir au Seigneur dans toute l'Achaïe. Vous savez qu'ils se sont spontanément mis au service des membres du peuple saint. » On ne sait rien d'autre sur ce personnage, mais il a servi spontanément. Et voilà ce qui se produit quand il y a un amour authentique, finalement, eh bien on s'engage. On est prêt aussi à servir et on est prêt aussi à bénir concrètement la communauté. C'est ce que Paul va dire, il s'est mis spontanément, sans qu'on lui demande finalement. À servir. Paul ne parle pas d'un amour théorique, mais d'un amour incarné, visible dans le quotidien. Et dans notre Église, comme dans notre vie privée, l'amour se manifeste aussi dans l'accueil, dans le service. L'amour se manifeste dans la patience. L'amour se manifestera aussi dans les services discrets, mais fidèles, peut-être même invisibles, même si on ne nous dit jamais merci ou qu'on ne remarque pas. Mais on le fait. Comme la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Et une église qui commence voilà, chaque jour, chaque semaine, eh bien, dans l'amour, commence aussi eh bien, ou continue dans la bonne direction. Dans la bonne direction. Alors je vais conclure. Comment est-ce qu'on souhaite que cette année, que cette semaine eh bien, soit marquée? Est-ce qu'on souhaite qu'elle soit marquée par l'amour? Est-ce qu'on a pris conscience de ce commandement, la parole de Dieu? Certainement, la plupart d'entre nous, on est conscient de notre fragilité. Certains sont touchés par la souffrance, je l'ai dit, mais aussi portés par l'espérance en Christ. La parole de Dieu nous appelle à un engagement clair, vigilant, mais aimant. Ferme dans la foi, mais rempli de grâce, courageux, mais guidé par l'amour. Et je prie que ces deux versets d'un Corinthiens 16 deviennent aussi un petit peu notre phare dans cette semaine, peut-être même dans cette année, que l'amour inspire toutes nos actions. Souvenons-nous-en. Même pour des gens non aimables, soyez vigilants, mes frères et sœurs. Le monde est rude. Les trahisons parfois font mal. Demeurez ferme dans la foi, là aussi. Faites preuve de courage. Soyez forts, que l'amour inspire toutes vos actions. Si l'amour inspire nos paroles, nos décisions, nos projets, notre service, alors cette année, cette semaine, ne sera pas seulement une année de plus, mais une année porteuse de consolation, de témoignage et de gloire pour Dieu. Pas seulement de consolation pour nous, mais aussi pour les autres. Vous êtes les mains et les bras de Dieu sur cette terre. Il y a son esprit qui agit. Et au travers de nos mains, à travers nos prières, à travers notre compassion, eh bien, certains peuvent recevoir la consolation, être relevés. Et nourrissez-vous aussi de cette parole de Dieu. Ne méprisez pas les petits commencements. Encouragez ceux qui sont autour de vous à persévérer. Ne méprisons pas les petits commencements. Dieu nous a dit de ne mépriser pas les petits commencements. Ne jugeons pas nos frères et sœurs, mais encourageons dans l'amour. En disant, ben c'est bien, tu as fait ça, mais je t'encourage, allez, on va faire ensemble. On va faire ensemble. Qu'un qui va dire, suis-je le gardien de mon frère ? Ben, je pense qu'on est le gardien aussi de notre frère. Nourrissons notre âme de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je pense qu'on pourrait tous répondre aussi à ce message en disant, mais Seigneur, aide-moi à être vigilant. Aide-moi à être ferme dans la foi. Aide-moi à faire preuve de courage. Aide-moi à être fort. Aide-moi, Seigneur, à ce que l'amour inspire toutes mes actions. Et si c'est votre souhait, votre désir, en ayant été interpellé par ce message, moi je vous encourage peut-être à vous lever puis à dire, ben, j'ai envie de progresser dans ces domaines-là. Et je vais prier pour nous, parce que je me lève aussi, je suis déjà debout, mais j'ai besoin aussi de me lever, vraiment aussi dans mon cœur, j'ai envie de me lever, pas juste être debout, puis qu'on voie que je sois debout, mais dans mon âme, je vais être aussi debout et dire, mais Seigneur, j'ai besoin d'être vigilant. Ben, Seigneur, tu bénis aussi mes frères et sœurs qui sont là devant moi. Seigneur, tu les aides à être vigilants dans ce monde qui est compliqué. Il y a tellement d'informations qui viennent de partout, tellement de fake news, tellement de bonnes et de mauvaises informations qui viennent. Seigneur, oui, aide-nous à garder, à rester vigilants. Seigneur, aide-nous à demeurer fermes dans la foi. Seigneur, à être fondés, enracinés dans ta parole. Aide-nous, Seigneur, à faire preuve de courage. Parfois, on a envie de baisser les bras, ou on est découragé. Et c'est vrai qu'humainement parlant, c'est justifié. Il y a des fois de quoi être découragé quand on voit. Peut-être même dans l'Église, des fois, on peut être découragé. Mais Seigneur, aide-nous à faire preuve de courage. Aide-nous à être fort, parce que c'est toi qui nous rends fort. Comme ce chant qui dit « Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur ». Par le sang, par le nom de Jésus, parce que tu nous rends forts, Seigneur. Et Seigneur, par-dessus tout, Seigneur, on a besoin que tu nous remplisses de ton amour, que ce soit la base, Seigneur, de toutes nos actions, que ce soit dans l'Église, mais aussi dans nos familles, au travail. Seigneur, que les gens ne sachent pas juste qu'on est chrétien, mais qu'ils le voient, parce qu'on a une attitude, parce qu'on a un cœur, parce qu'on tient parole. Parce qu'on est des gens en qui on peut faire confiance, qui savent garder des secrets. Seigneur, merci de nous aider, Jésus, à progresser. Et merci parce que tu ne méprises pas les petits commencements. Et Seigneur, si des fois on est découragé de nous, eh bien tu nous rappelles au travers de ta parole, là encore, eh bien que tu... Ouais, toi qui aurais mille et une raisons d'être découragé face à notre attitude, ben, tu nous dis... Tu ne méprises pas les petits commencements. Ben Seigneur, oui, garde-nous aussi dans cette attitude de dire ben, je peux progresser. Merci Jésus pour là où on en est, mais merci Jésus parce que toi, tu vois déjà plus loin, là où tu veux nous conduire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.